Chapitre 28. Nucingen, sur le point d'être heureux, s'adonne à la toilette. Hommes et moyens, tout fut secret du côté de Peyrade, que son ami Corentin seconda dans cette expédition, une niaiserie pour eux. Ainsi, l'histoire est muette à ce sujet, comme elle est muette sur les véritables causes de bien des révolutions. Mais voici le résultat. 5 jours après l'entrevue de M. de Nucingen avec Peyrade aux Champs-Élysées, un matin, un homme d'une 50aine d'années, de cette figure de blanc de Céruse que se font les diplomates, habillé de drap bleu, d'une tournure assez élégante, ayant presque l'air d'un ministre d'État, descendit d'un cabriolet splendide en jetant les guides à son domestique. Il demanda si le baron de Nucingen était visible au valet qui se tenait sur une banquette du péristyle et qui lui en ouvrit respectueusement la magnifique porte en glace. « Le nom de monsieur ?» dit le domestique. « Dites à monsieur le baron que je viens de l'avenue Gabriel, » répondit Corentin. « S'il y a du monde, gardez-vous bien de prononcer ce nom-là tout haut. Vous vous feriez mettre à la porte. » Une minute après, le valet revint et conduisit Corentin dans le cabinet du baron par les appartements intérieurs. Corentin échangea son regard impénétrable contre un regard de même nature avec le banquier, et ils se saluèrent convenablement. « Monsieur le baron, dit-il, je viens au nom de Peyrade. »« Bien, fit le baron en allant pousser les verrous aux deux portes. La maîtresse de M. de Rubempré demeure rue Thébout, dans l'ancien appartement de Mademoiselle de Bellefeuille, l'ex-maîtresse de M. de Granville, le procureur général. « Ah, si prête-moi !» s'écria le baron. « Gaume, c'est drôle !»« Je n'ai pas de peine à croire que vous soyez fou de cette magnifique personne. Elle m'a fait plaisir à voir, » répondit Corentin. Lucien est si jaloux de cette fille qu'il lui défend de se montrer. Il est bien aimé d'elle, car depuis 4 ans qu'elle a succédé à la Bellefeuille, et dans son mobilier et dans son état, jamais les voisins, ni le portier, ni les locataires de la maison n'ont pu l'apercevoir. L'infante ne se promène que la nuit. Quand elle part, les stores de la voiture sont baissés et madame est voilée. Lucien n'a pas seulement des raisons de jalousie pour cacher cette femme. Il doit se marier à Clotilde de Grandlieu, et il est le favori intime actuel de madame de Sérisy. Naturellement, il tient et à sa maîtresse d'apparat et à sa fiancée. Ainsi, vous êtes maître de la position. Lucien sacrifiera son plaisir à ses intérêts et à sa vanité. Vous êtes riche. Il s'agit probablement de votre dernier bonheur. Soyez généreux. Vous arriverez à vos fins par la femme de chambre. Donnez 10,000 francs à la soubrette. Elle vous cachera dans la chambre à coucher de sa maîtresse. Et pour vous, ça vaut bien ça. »
Aucune figure de rhétorique ne peut peindre le débit saccadé, net, absolu de Corentin. Aussi, le baron le remarquait-il en manifestant de l'étonnement, une expression qu'il avait depuis longtemps défendue à son visage impassible.
« Je viens vous demander 5,000 francs pour Peyrade, qui a laissé tomber 5 de vos billets de banque. Un petit malheur. » reprit Corentin avec le plus beau ton de commandement. Peyrade connaît trop bien son pari pour faire des frais d'affiche, et il a compté sur vous. Mais ceci n'est pas le plus important, dit Corentin en se reprenant de manière à ôter à la demande d'argent toute gravité. Si vous ne voulez pas avoir du chagrin dans vos vieux jours, obtenez à Peyrade la place qu'il vous a demandée, et vous pouvez la lui faire obtenir facilement. Le directeur général de la police du royaume a dû recevoir hier une note à ce sujet. Il ne s'agit que d'en faire parler au préfet de police par Grondeville. Eh bien, dites à Malin, comte de Grondeville, qu'il s'agit d'obliger un de ceux qui l'ont su débarrasser de messieurs de Simeuse
et il marchera.
« Voici, monsieur, » dit le baron en prenant 5 billets de 1 000 francs et les présentant à Corentin.
La femme de chambre a pour bon ami un grand chasseur nommé Paccard, qui demeure rue de Provence, chez un carrossier, et qui se loue comme chasseur à ceux qui se donnent des airs de prince. Vous arriverez à la femme de chambre de Madame Van Boxeck par Paccard, un grand drôle de piémontais, qui aime assez le vermouth. Évidemment, cette confidence, élégamment jetée en post-scriptum, était le prix des 5 000 francs. Le baron cherchait à deviner à quelle race appartenait Corentin, en qui son intelligence lui disait assez qu'il voyait plutôt un directeur d'espionnage qu'un espion. Mais Corentin resta pour lui ce qu'est, pour un archéologue, une inscription, à laquelle il manque au moins les 3/4 des lettres.
« Comment se nomme la femme de chambre ? » demanda-t-il.
« Eugénie, » répondit Corentin qui salua le baron et sortit. Le baron de Nucingen, transporté de joie, abandonna ses affaires, ses bureaux et remonta chez lui dans l'heureux état où se trouve un jeune homme de 20 ans qui jouit en perspective d'un premier rendez-vous avec une première maîtresse. Le baron prit tous les billets de 1 000 francs de sa caisse particulière, une somme avec laquelle il aurait pu faire le bonheur d'un village, 55 000 francs, et il les mit à même dans la poche de son habit. Mais la prodigalité des millionnaires ne peut se comparer qu'à leur avidité pour le gain. Dès qu'il s'agit d'un caprice, d'une passion, l'argent n'est plus rien pour les Crésus. Il leur est en effet plus difficile d'avoir des caprices que de l'or. Une jouissance est la plus grande rareté de cette vie rassasiée, pleine des émotions que donnent les grands coups de la spéculation et sur lesquels ces cœurs secs se sont blasés. Exemple, un des plus riches capitalistes de Paris, connu d'ailleurs pour ses bizarreries, rencontre un jour sur les boulevards une petite ouvrière excessivement jolie. Accompagnée de sa mère, cette grisette donnait le bras à un jeune homme, d'un habillement assez équivoque et d'un balancement de hanches très farot. À la première vue, le millionnaire devient amoureux de cette Parisienne. Il la suit chez elle, il y entre, il se fait raconter cette vie mélangée de bals chez Mabille, de jours sans pain, de spectacles et de travail. Il s'y intéresse et laisse 5 billets de 1 000 francs sous une pièce de 100 sous, une générosité déshonorée. Le lendemain, un fameux tapissier, Brachon, vient prendre les ordres de la grisette, meuble un appartement qu'elle choisit, y dépense 20 000 francs. L'ouvrière se livre à des espérances fantastiques. Elle habille convenablement sa mère, elle se flatte de pouvoir placer son ex-amoureux dans les bureaux d'une compagnie d'assurance. Elle attend 1, 2 jours, puis 1 et 2 semaines. Elle se croit obligée d'être fidèle. Elle s'endette. Le capitaliste, appelé en Hollande, avait oublié l'ouvrière. Il n'alla pas une seule fois dans le paradis où il l'avait mise, et d'où elle retomba aussi bas qu'on peut tomber à Paris. Nucingen ne jouait pas. Nucingen ne protégeait pas les arts. Nucingen n'avait aucune fantaisie. Il devait donc se jeter dans sa passion pour Esther avec un aveuglement sur lequel comptait l'abbé. Après son déjeuner, le baron fit venir Georges, son valet de chambre, et lui dit d'aller rue Thébout prier Mademoiselle Eugénie, la femme de chambre de Madame Van Broxeck, de passer dans ses bureaux pour une affaire importante. « D'où la guédera, » ajouta-t-il, « et tu la verras monter dans ma chambre, en lui disant que sa fortune est vaide. » Georges eut 1000 peines à décider, Europe, Eugénie, à venir. Madame, lui dit-elle, ne lui permettait jamais de sortir. Elle pouvait perdre sa place, etc., etc. Aussi, Georges fit-il sonner haut ses mérites aux oreilles du baron, qui lui donna 10 louis. « Si madame sort cette nuit sans elle, dit Georges à son maître, dont les yeux brillaient comme des escarboucles, elle viendra sur les 10 heures. « Pan, tu viendras m'habiller à 9 heures, me goaver, car je veux être aussi bien que possible. Je crois que je gambaraderai devant ma maîtresse, ou l'argente ne serait pas l'argente. »
De midi à 1 heure, le baron teignit ses cheveux et ses favoris. À 9 heures, le baron, qui prit un bain avant le dîner, fit une toilette de mariée, se parfuma, s'adonisa. Madame de Nucingen, avertie de cette métamorphose, se donna le plaisir de voir son mari.
« Mon Dieu, dit-elle, êtes-vous ridicule? Mais mettez donc une cravate de satin noir à la place de cette cravate blanche qui fait paraître vos favoris encore plus durs. Et d'ailleurs, c'est empire, c'est vieux bonhomme, et vous vous donnez l'air d'un ancien conseiller au Parlement. Ôtez donc vos boutons en diamant, qui valent chacun 100 000 francs. Cette singesse vous les demanderait, vous ne pourriez pas les refuser. Et pour les offrir à une fille, autant les mettre à mes oreilles. »
Le pauvre financier, frappé de la justesse des remarques de sa femme, lui obéissait en rechignant.
« Ridicule, ridicule! Je ne vous ai jamais dit que vis étiez ridicule quand vivi médie de foudre mexbir, foudre bédie de ménessier de Rastignac.
Je l'espère bien que vous ne m'avez jamais trouvé ridicule. Suis-je femme à faire de pareilles fautes d'orthographe dans une toilette? Voyons, tournez-vous, boutonnez votre habit jusqu'en haut, comme fait le duc de Maufrigneuse, en laissant libres les 2 dernières boutonnières d'en haut. Enfin, tâchez de vous rendre jeune. »
Monsieur, dit Georges, voici mademoiselle Eugénie.
Adieu, Montame!
S'écria le banquier. Il reconduisit sa femme jusqu'au-delà des limites de leurs appartements respectifs pour être certain qu'elle n'écouterait pas la conférence.